This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. There is an incredible facility right here in downtown Toronto that is helping on the front lines and is doing incredible innovative research. They are a facility that treats everybody with dignity, and they need your help. May 6th to 12th is Mental Health Week. If this matters to you, help CAMH. There's no better place for your resources. Go to camh.ca/CanadaLand. And donate now. Help CAMH treat addiction and build hope.
Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, je suis avec Léla Savic, rédactrice en chef et fondatrice de La Converse. Allô Léla.
Salut.
Merci d'être là avec nous.
Merci de me recevoir.
Dans cet épisode, ensemble, on va parler d'abord de la couverture médiatique sur les questions de migration et des personnes réfugiées ici au Canada. Dans un deuxième temps, on va parler des traumas avertissements. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Gavin Young, Shane Bartlett, Alexandra Bégin, Sarah Howie, Jacqueline Sears, Sam Goulet, Valérie Marié et Brian.
Bonjour, hi. My name is Brian and I'm a retired prof living in Kitchener. Je sais par expérience que la plupart des Canadiens anglais ont besoin d'une compréhension plus profonde et surtout plus subtile de ce qui se passe au Québec. Selon moi, il n'y a pas de meilleure façon d'acquérir ces connaissances essentielles qu'en écoutant Détour et son animatrice géniale, Émilie Nicolas.
Le corps de Fritznel Richard a été retrouvé ici le 4 janvier, dans ce boisé, à quelques centaines de mètres à peine du chemin Roxham. Il serait mort de froid après s'être perdu durant la tempête qu'a connue le Québec à la fin décembre. Fritznel faisait partie des 40 000 personnes arrivées au Canada par Roxham depuis près d'un an.
C'est loin d'être un cas isolé. Je connais au moins 10 personnes ou bien des couples et autres qui sont retournés depuis novembre 2021.
Franz André aide les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Le rêve canadien serait malheureusement devenu parfois un mirage.
Je crois que le Canada est un bon pays d'accueil. Par contre, depuis maintenant la COVID, les choses se sont compliquées. Ça a amené les gens justement à être désespérés puis prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas dû prendre.
Donc Léla, d'abord pour nous situer, parce qu'on voulait parler de migration ici cette semaine. Mm-hmm. Bon, ici, à Montréal en particulier, il y a ce qu'on appelle le chemin Roxham, qui est à la frontière, donc juste au sud de Montréal et l'État de New York. Mm-hmm. C'est un chemin par lequel il y a beaucoup de personnes qui sont des demandeurs d'asile qui viennent traverser la frontière canado-américaine. En tout début d'année, un homme qui s'appelle Fritznel Richard, qui a été retrouvé mort près de la frontière, il avait pris le chemin Roxham pour traverser, pour rejoindre sa femme et son enfant. Et puis sa mort, je pense qu'elle a choqué beaucoup de monde. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler du chemin Roxham. Mm. Mais je pense que sa mort a ému aussi beaucoup de gens. On avait envie d'abord de parler de la question plus largement à comment est-ce qu'on raconte les expériences des personnes migrantes, des personnes demandeuses d'asile, des personnes qui viennent ici comme réfugiées. Donc d'abord, j'aimerais t'entendre peut-être sur ton expérience de journaliste de terrain pour la question des personnes migrantes de manière générale.
Ben, je pense que en général, les journalistes qui couvrent les questions des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, souvent c'est des gens qui n'ont jamais vécu ça. Mm-hmm. Je pense que quand tu viens d'un pays où est-ce que tu as vécu ces insécurités-là, où il y a des réfugiés, où tu es toi-même réfugié, où tu as passé par un processus où ta vie, ta famille, le faire, je pense que tu vas aborder ces personnes avec beaucoup plus de tact. Je me rappelle quand j'étais à la presse, justement, dans le cadre de mon stage de la diversité, c'était en 2017, en juillet.
C'est à ce moment-là qu'il y avait la... Je ne vais pas appeler ça une crise, mais ça a été mis dans les médias comme une crise où il y avait... donc, on a ouvert le stade olympique ici à Montréal pour accueillir les gens qui traversaient la frontière, tout ça.
Puis je me rappelle, j'étais entrée au bureau, puis, tu sais, ma collègue m'avait dit, « Léla, est-ce que tu veux aller? » Ben j'ai dit, « Ben en fait, ça serait mieux d'envoyer mon collègue JL parce qu'il est haïtien, puis il parle la langue, fait que je pense que vous êtes mieux de l'envoyer, tu sais. » Puis Gilles était allé, puis je me rappelle, il était retourné, puis il m'en avait parlé, il m'a dit, là, ça m'a vraiment fait de quoi, tu vois, il me racontait leur histoire, puis ça m'a touchée, puis il leur parlait en créole, puis je pense que le fait de aussi parler à des réfugiés dans leur langue, avec quelqu'un qui leur ressemble, qui a vécu aussi un peu de leur vécu, je pense que là, ce qu'on ignore, je pense, dans les journalismes terrain, ou ce qu'on... Je dirais pas qu'on ignore ou... qu'on essaie d'ignorer, en fait, c'est la relation de proximité. Parce que, en tant que journaliste, quand on parle avec quelqu'un, il y a déjà une distance entre soi et la personne. Donc, plus t'es loin du sujet, ben, plus la distance entre toi et la personne va être grande. Et donc, quand t'as des journalistes qui ont une plus grande proximité, ben, la relation, elle va changer. Non seulement le ton, ce que la personne va dire, ce que la personne va sentir, comment elle va se sentir. Donc, je pense que y a un grand travail de sensibilisation à faire sur comment approcher les migrants. C'est quoi la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Pourquoi les personnes viennent ici? Et vraiment prendre le temps. Parce que ça, c'est un gros problème dans les médias en général. Mais vraiment d'expliquer aussi ces nuances-là, parce qu'il y a des journalistes qui vont aller sur un terrain et qui vont pas savoir la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié, par exemple. Ou qui vont encore dire des migrants illégaux, tu sais, au lieu de dire des personnes sans statut. Donc, il y a quand même beaucoup de désinformation ou de manque d'information, je dirais, en général.
Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est comme si, d'une part, tu dis... Quand les personnes qui deviennent journalistes ont elles-mêmes certaines expériences de vie, ça aide à créer une proximité, une empathie. Les liens vont se tisser plus naturellement avec certaines populations vulnérables. Donc, le ton, le contenu de l'entrevue va être différent, les confidences vont être différentes, d'une part. Et d'autre part, tu dis, ça prend des formations. Donc, il y a quand même aussi, ça prend des formations, c'est qu'il y a aussi un espoir que par la formation, les personnes, peu importe leur origine, même s'ils n'ont pas cette expérience de vie-là, peuvent aussi apprendre certaines notions qui au moins diminuent le ce que tu appelles les pratiques violentes. Donc, les pratiques qui sont les plus problématiques peuvent aussi être diminuées par une sensibilité plus grande à ces enjeux-là. Est-ce que tu, en fait, toi-même, pourquoi tu es arrivée à vouloir s'intéresser à ce genre de journalisme-là?
Ben déjà, moi, je suis d'origine rome de l'ex-Yougoslavie, donc... je suis née en 88, là, je vais trahir mon âge, mais c'est ça, en fait, c'était un endroit où il y a eu beaucoup de guerres. Donc, je voyais justement mon père frustré quand on montrait les guerres, je voyais ma famille. Ben, nous, on a dû quitter en 92 à peu près. Puis, j'ai vu les séquelles de la guerre. En fait, j'ai vu les séquelles des journalistes sur les victimes de la guerre. Bien sûr que je viens d'une communauté qui est complètement effacée en Amérique du Nord, incomprise. Quand tu viens d'un peuple dont notre histoire n'a jamais été écrite par nous, tout ce qui est fait sur nous n'est pas fait par nous. C'est clair que je pense que pour moi, le journalisme a toujours été blessant. Pour notre peuple, il a toujours été blessant, je vais être honnête. Et je pense que en étant journaliste, pour moi, c'est une manière de reprendre ce pouvoir-là. Donc, la première fois que je suis rentrée dans une salle de presse, tu sais, c'était comme « je suis plus votre sujet, je suis là, c'est moi qui ai le pouvoir de dire ce qui se passe ». Donc, c'est une manière pour moi de reprendre le contrôle sur mon narratif, sur celui de mon peuple, puis sur celui de tout autre peuple qui vit ces marginalisations-là.
Donc, comment est-ce que, à partir de ce regard-là, à travers cette pratique-là, tu vois la couverture médiatique sur la question du chemin Roxham dans les derniers mois? Parce que là, on venait parler, il y a eu la manière dont on a couvert la mort de M. Richard. Il y a eu à l'automne aussi toute une couverture médiatique sur les Mexicains qui arrivent de plus en plus nombreux ici à Montréal, donc directement du Mexique. Donc le Canada a enlevé les visas obligatoires pour les ressortissants mexicains. Donc il y a eu une augmentation des demandeurs d'asile mexicains qui arrivent directement du Mexique. La pression que ça met aussi sur les organismes comme l'OTAC sont souvent sous-financés pour venir en aide à toutes ces personnes-là. Donc il y a eu toute une couverture médiatique sur la question du financement des organismes communautaires, puis il y a aussi toute la question, en fait, du va-et-vient, on se lance la balle entre Québec et Ottawa, savoir qui devrait aussi payer la facture pour ces services-là d'intégration. Il y a tout ce discours-là qui se passe. La pratique journalistique que toi mets de l'avant, comment est-ce que vous approcheriez ces questions-là différemment? Ou c'est quoi la critique que tu as à faire par rapport à la manière dont on parle de ces enjeux en ce moment?
Bien, ma critique, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces personnes. On ne sait même pas qui était Fritzinelle Richard. De les reportages que j'ai lus de lui, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait en Haïti.
On parle de sa mort, mais on ne parle pas de sa vie.
On ne parle pas de sa vie. Qui était M. Richard? Pourquoi a-t-il quitté Haïti? Pourquoi est-ce qu'il est venu au Canada? Puis là, il avait besoin de retourner aux États-Unis. Pourquoi? On ne prend pas des décisions comme ça rapidement, sur un coup de tête. Donc, si ce monsieur est venu au Canada puis a décidé de retourner aux États-Unis, je pense qu'on a de sérieuses questions à se poser au Canada. Et on ne va pas plus loin, en fait. Je pense qu'il y a une plus grande histoire à raconter sur le décès de M. Richard, parce que M. Richard, ça aurait pu être n'importe quel autre réfugié, en fait, n'importe quel autre demandeur d'asile, n'importe quelle personne sans statut, n'importe quel migrant, en fait, qui aurait pu être lui. Et il y en a d'autres personnes, en fait. C'est pas le seul qui a vécu ça. Il faut aussi rappeler ça. Donc, je pense qu'il y a un grand manque d'humanité quand on couvre ces sujets-là.
Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je pense qu'il y a comme deux trucs complémentaires. Il y a un aspect qui est manquant, puis je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Puis l'autre aspect qui est vraiment important aussi, que c'est un type de journaliste probablement sur lequel les gens insistent parce que là, à ce moment-là, l'identité personnelle des personnes ou leur parcours de vie a moins rapport avec ça. C'est plus le journaliste d'accès. Si, par exemple, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le système d'immigration, pourquoi il y a des files d'attente, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps que ça d'avoir des réponses pour les demandeurs d'asile, à ce moment-là, c'est une question de demande d'accès à l'information à Ottawa. Ce genre de journalisme-là, aller demander les réactions ou d'une conférence en conférence de presse, c'est une question d'aller interroger, finalement, des institutions, la responsabilité des institutions par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ça, je pense que ça, il y a plusieurs journalistes qui font un travail intéressant là-dessus. Après, il faut savoir est-ce que c'est fait pour répondre aux questions des questions du grand public ou les questions des personnes concernées. Ça change l'angle. Peut-être qu'il y aurait des questions. En fait, je pense que les réponses qui sont apportées sont bonnes, mais il y aurait peut-être encore d'autres questions apportées de ce niveau-là. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il manque de l'information sur la partie terrain, la réalité humaine, et non pas seulement aller voir en haut ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, même en haut, si on a une meilleure connaissance du terrain, les questions qu'on pose aux gens en haut, il y en aurait peut-être d'autres à ajouter aussi à notre liste de demandes d'accès à l'information.
Oui, en fait, je te dirais que, tu sais, comme nous, à la Converse, quand on couvre des sujets comme ça, on couvre tous nos sujets, en fait, c'est pas à moi de décider. Tu sais, tout le concept d'intérêt public me dérange beaucoup. C'est quoi l'intérêt public? C'est pas à moi de décider. C'est quoi l'intérêt public? Puis je trouve que souvent, dans toutes les formations journalistiques que j'ai suivies et toutes les salles de presse où j'ai été, hein, c'était toujours « ouais, mais c'est d'intérêt public, mais pour qui? » Tu comprends? Puis je pense que dans ce cas-ci, quand on parle de couverture qui traite aux personnes marginalisées, que ce soit les migrants ou toute autre personne marginalisée, les questions qu'on va poser en haut, comme tu dis, donc le travail de responsabilisation que les journalistes ont, le chien garde la démocratie, ne se fait pas nécessairement pour servir les personnes qui vivent la situation, mais il se fait souvent pour servir la curiosité du journaliste ou la curiosité du commun mortel qui pourrait souvent être une personne de classe moyenne qui a le temps de réfléchir à ces questions-là pour réfléchir. Un journaliste, pour moi, puis le journaliste, c'est un service, je le redis. Et donc, si j'ai l'opportunité d'aller questionner l'autorité, questionner les responsables, ben il faut que mon travail serve directement aux personnes concernées. Nous, c'est quelque chose justement qu'on est très intentionnel avec ça à la Converse. Notre travail doit, puis je chicote tous les journalistes qui travaillent avec moi là-dessus. Nous, notre travail, il faut qu'il serve directement les personnes qui vivent la situation. Puis si c'est pas le cas, on va pas le faire. Je suis vraiment très intentionnelle et très stricte là-dessus. Parce que tu vois, c'est vrai que ça peut être très sexy, aller faire le chemin Roxham, puis montrer c'est quoi le chemin, puis moi je vais me faire passer pour une migrante mexicaine qui a envie de venir au Canada. Tu sais, il y a plein de journalistes qui l'ont fait. C'est trippant pour moi en tant que journaliste. La vérité, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'apporte aux personnes qui vivent ça? Une personne qui passe le chemin, il n'y a pas besoin de savoir... Comment t'as fait, toi? Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est quoi les points d'entrée qui sont sécuritaires? Comment je fais pour me protéger? Comment je fais pour voir si mon passeur il est sécuritaire ou pas? parce que je vais en prendre un de toute manière. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive au Canada? Où je vais? Comment je fais pour remplir mon document de permis de travail?
Tu disais toi-même tout à l'heure, souvent, le temps, c'est la chose la plus précieuse, la plus rare là, dans les salles de nouvelles, dans le modèle dominant. Donc, les gens ne prennent pas le temps de faire ça. Et ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que normalement, les personnes vulnérables, puis tu le disais toi-même par rapport à ta propre histoire, ton propre parcours, ont un rapport traumatique aux médias, aux journalistes. Puis dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est que prendre le temps de faire les choses autrement, ça peut être aussi développer un rapport thérapeutique aux journalistes. Puis à ce moment-là, bien, le résultat permet aussi de raconter autre chose qui peut être absent dans la couverture actuelle. Donc, c'est aussi la question d'une forme de, je veux dire, décolonisation du temps aussi, là, qui est derrière ce que tu mentionnes. Donc,
oui, ça prend du temps. Puis je pense que je me rappelle quand j'avais lancé la converse au début, je n'étais pas certaine hein, parce que c'était un projet pop-up. Puis j'avais discuté justement avec une collègue aux États-Unis, Candace Fortman de Outlier Media à Détroit. Puis elle m'a dit un truc qui m'est resté gravé dans le cœur. Elle m'a dit « servir les communautés, ta communauté ». Donc pour moi, c'est toutes les communautés qu'on sert, servir votre communauté que vous avez envie de servir rapidement, c'est un « it's a disservice rather than a service, it's hurting them mm-hmm. ».« Serving communities fast is a disservice mm-hmm. ». Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Tu ne peux pas parler des questions qui touchent les communautés vulnérables rapidement, ça ne se fait pas. C'est du fast-food, c'est du trauma porn, ça fait mal aux gens. Donc, t'es mieux de ne pas le faire que de le faire rapidement. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un qui vit du trauma de te raconter son trauma sur un fly, sur un coin de trottoir. Donc, je pense qu'on a un grand travail d'introspection à faire sur ces questions-là et une grande responsabilité aussi par rapport à ce que ces personnes vivent.
Merci pour ça, Léla.
This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We got a tour of their facilities in their downtown Toronto campus, and I was blown away by the heroic work that these people are doing. They are saving lives every day. I know people whose lives were saved, and they just really care about the dignity of the people who turn to them for help. Look, we talk a lot about these issues on Canada Land. We talk about the crisis that is claiming 20 lives every day in Canada to drug overdoses. But we don't give you a lot of options of what you can do about it. CAMH is an option. CAMH desperately needs resources that they directly put into their work, saving lives and turning people's lives around. Listen, May 6th to 12th is Mental Health Week. This is when they need your help the most. Go to camh.ca/CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world, and it's available here in Canada. And this time of year, we're all emerging from our winter-like seclusion and, patio season and socializing, and it can be terrifically fun, but it can also create a lot of pressure. And some people get, like, anxiety, social anxiety from being out too much. What did Iggy Pop say about social life? It's torture dressed as fun. It doesn't need to be torture. I think it's just about finding, like, the right balance of how much of other people do you want? I mean, we need each other, but I think that at a certain point, it can become overwhelming. And talking to somebody about yourself, about your social life, about your relationships is a way of gaining insight into what is right for you. It's not selfish to examine that with a professional. And as the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Listeners of the show get 10% off of their first month at betterhelp.com/CanadaLand. That's better, H-E-L-P, betterhelp.com/CanadaLand.
Léla, qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
En fait, récemment, j'ai été en Floride pour une formation pour les femmes en médias, en position de leadership. Et on était une trentaine de femmes au Poynter Institute. Et à la fin, on devait en fait parler de qu'est-ce qu'on va faire, notre plan de développement professionnel. Et en fait, je me rappelle, il y avait beaucoup de personnes qui ont pleuré. C'est quand même assez surprenant, c'est dans une formation en leadership qu'il y a autant de larmes qui sortent et d'émotions. Dans notre industrie, tu sais, on se dit, on veut être inclusif, puis la diversité, c'est super important. Mais je pense qu'on est aussi dans une industrie qui prend pas en considération le rôle des femmes, puis le rôle des mères. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, j'ai un prof qui m'a m'avait dit, j'étais nouvellement maman, ma fille avait 14 mois, j'étudiais en journalisme. Puis mon prof m'a dit, mais le journaliste, c'est un poste, c'est une job de célibataire qui n'a pas d'enfant. Je pense que quand on parle de diversité puis d'inclusion, ben je pense que nos espaces médiatiques doivent vraiment s'adapter à ça, en fait. Parce que oui, on peut être maman et on peut avoir des enfants et on peut faire du journalisme. C'est pas normal que nos enfants interviennent pour nous dire d'arrêter de travailler. Et je pense qu'il y a un grand changement à faire dans l'industrie des médias, justement, pour penser à ces questions-là.
Merci pour ça. Ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu dis, puis ça rejoint, c'est sûr, certaines de mes propres réalités, puis la réalité de beaucoup de femmes que j'ai autour de moi. J'ai l'impression que cette conversation-là, on est en train d'approcher ces temps-ci. Moi, je l'ai vu pop-up à cause de la conversation sur la violence, en fait, en ligne, la violence que les femmes journalistes reçoivent, puis la manière dont on normalise le fait que c'est à nous d'assumer ça, de l'impact que ça a sur notre sécurité, sur notre santé mentale aussi. C'est à chaque individu à se débrouiller avec ça, puis c'était pas fait avec la couenne assez dure, change de métier, c'est essentiellement ça qu'on nous dit. Puis je pense que dans ça et dans ce que tu nommes, en fait, les deux, c'est une question de à quel point, en fait, c'est un milieu qui est fait pour un boys club à la base, et que à partir du moment où les femmes ont pris de plus en plus de place, il y a une forme de culture qui vient du temps où c'était seulement des hommes qui étaient journalistes, qui est restée en place même si le corps de métier a changé. Donc, ouais, ce que tu dis là est très, très important. Puis je pense qu'on est plusieurs à se poser ces questions-là, chacune individuellement, bien noté.
Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci, en fait?
Écoute, moi, je vais y aller sur un ton très, très différent, beaucoup plus léger, parce que ça prend du léger aussi. Mais une chose que j'ai vue passer qui m'a beaucoup fait sourire en début d'année, je pense que tout le monde l'a vu passer, le palmarès des 200 meilleurs chanteurs, chanteuses de tous les temps qui a été fait par le magazine Rolling Stone aux États-Unis. Et là, le gros drame, c'est que Céline Dion n'était pas inclue là-dedans. Puis il y a tellement un culte ici au Québec pour Céline Dion que comme ça a suscité des réactions. Donc il y a Julie Snyder qui est quand même une figure incontournable au Québec, productrice, animatrice, donc amie personnelle bien sûr aussi de Céline Dion qui est allée directement dans les bureaux du Rolling Stone à New York.
La semaine des 4 juillet s'est rendue à New York. Nous avons manifesté notre désaccord avec des fans, des vrais fans de Céline et des pancartes devant le bureau des Rolling Stones. Et là, gang, notre initiative a fait le tour du monde. On en a vraiment parlé partout dans le New York Post. J'ai même accordé une entrevue à la BBC cet après-midi, comme un rêve. Céline is number one, Rolling Stone is stone.
Moi, j'ai vu passer au moins 5, 6, 7 chroniques sur la question. C'est comme si c'était une période de début d'année où le cycle de nouvelles est encore creux. Et là, tout le monde se pose la question de c'est quoi la carrière de Céline Dion. On comprend qu'il y a un contexte en ce moment avec le fait qu'elle a annoncé que, bon, elle a une maladie qui remet en question la suite de sa carrière. Je pense que les gens sont particulièrement émus de ce qui se passe avec elle ces temps-ci. Mais quand même, c'était beaucoup. Donc.
Bien noté, Émilie.
Léla, dans les dernières semaines, Le Devoir a publié une série de 3 articles, donc rédigés par la journaliste Catherine Lalonde, qui est sur un sujet qui a retenu mon attention à moi et à Nancy, qui fait la production, sur le sujet donc des mises en garde, ce qu'on appelle en anglais les trigger warnings, en français les traumas avertissements. Et donc, ce que l'article dit repart en fait d'une étude qui a été publiée à l'été 2022 par les universités Flinders et Harvard sur l'efficacité ou plutôt l'inefficacité des traumas avertissements. Ce que l'étude dit, dans le fond, c'est que ça aide pas nécessairement les gens qui ont été traumatisés dans la vie, en fait, qui ont des traumas, de lire, par exemple, au début d'un article journalistique, parce qu'on en voit aussi dans le cinéma, tout ça, pour ces conversations-là, on va se concentrer d'abord sur la question des médias, mais que lorsqu'on voit un traumatisement de « attention, il y a tel contenu dans un article », la recherche montre que ça aide pas vraiment les personnes qui vont ensuite lire cet article-là. Après, les conclusions, je pense, sont plus nuancées que ce que je viens de dire. Donc, j'avais envie d'avoir cette conversation-là avec toi parce que c'est quelque chose qui est une pratique qui est de plus en plus répandue en journalisme. Puis je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions sur, en fait, comment est-ce qu'on utilise ça, jusqu'à quel point on en met dans notre travail, à quoi ça sert. Puis c'est quelque chose aussi qui est beaucoup critiqué dans l'espace public par certaines personnes qui disent si vous êtes trop sensible, vous avez juste à pas lire les journaux. Il y a tout ce débat-là qui se passe en ce moment. Ouais. Donc peut-être d'abord pour commencer, toi, est-ce que tu en utilises des traumatismes d'investissement dans ton travail?
J'en ai utilisé lors de la couverture des pensionnats suite à Kamloops. C'était vraiment une note, là. T'sais, j'ai pas mis trauma avertissement. J'ai écrit cet article traite de ces questions-là. Puis si vous avez besoin d'aide, voici les ressources. Mm-hmm. Je pense que c'était le minimum à faire dans le cadre de ce reportage-là. Sinon, on l'a pas nécessairement fait dans les autres reportages qu'on a écrits. Par contre, à la converse, on a ce qu'on appelle une note de transparence dans laquelle on explique, en fait, pourquoi on fait ce reportage, quelles sont nos intentions, puis quel a été notre processus. Fait que le journaliste va expliquer, en fait, vraiment qu'est-ce qu'il a marqué dans ce reportage-là. Fait que c'est quand même, il y a une sensibilité qui est assez développée. Mais je te dirais que je ne sens pas le besoin de mettre autant de trauma avertissement dans mon travail parce que à la converse, en fait, la manière qu'on approche les sujets est trauma informed.
C'est comme si, en fait, ces textes-là servent des fois, je sais pas ce que t'en penses, mais des fois j'ai l'impression que je sais pas à quel point l'étude, je pense pas que l'étude est allée faire ce travail critique-là, mais c'est comme si on met du contenu qui est comme du trauma porn. Puis qu'avant d'avoir le trauma porn, on dit « attention, le trauma porn s'en vient ». En fait, le problème, c'est peut-être pourquoi est-ce que le trauma porn a été présenté comme ça. Peut-être que des fois, en fait, ça dépend des sujets, bien sûr, mais des fois, c'est peut-être que ces trauma-avertissements-là servent surtout à dédouaner ou en fait à éviter de faire une réflexion critique sur son contenu journalistique même, plutôt que de se dire « on aurait pu écrire ça autrement, on va l'écrire avec ben du gore, puis avant, on va dire « attention, ceci contient du gore ».
Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Je trouve que souvent, le trigger warning est utilisé pour se dédouaner du contenu qu'on fait, qui est souvent effectivement du trauma porn et qui ne prend pas du tout en considération les sentiments des personnes qui peuvent vivre aussi cette situation-là ou qu'ils ont vécu une situation qui ressemble à ça. Et donc, effectivement, quand on parle de sujets, tu sais, comme la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, toutes les guerres, en fait, est-ce que tu as vraiment besoin d'être là? Hein? Faut se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ces photos-là? Qui est-ce que ça sert? Encore, c'est la même chose. On n'a pas besoin de savoir les détails d'une personne aussi qui a vécu le génocide. On n'a pas besoin de savoir les détails de tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'elle a vécu.
Tu sais, quand tu disais « c'est quoi qui est l'intérêt public? » En fait, je pense que la question de ces détails-là, si on va dedans ou pas...
Puis il faut aller plus loin parce que des fois, en fait, le trauma, tu le crées pour les personnes que tu as interviewées. Donc, c'est pas juste les personnes qui vont lire ton contenu, mais souvent, en fait, les journalistes vont venir traumatiser les personnes qu'ils passent en entrevue de la manière, justement, qu'ils vont aborder, qu'ils vont les amener dans des endroits qui sont pas nécessaires. Donc, je pense qu'effectivement, un trigger warning, c'est une manière... Ça devrait pas être une manière de se dédouaner pour le travail traumatique qu'on fait.
Après, ça dépend des sujets. Je parlais tout à l'heure de la question des pensionnats autochtones. Là-dessus, je pense que la pratique s'est généralisée quand même dans les dernières années. Aussitôt qu'il est question de ça, on voit qu'on va en parler, puis on voit aussi la ligne d'info, la ligne d'écoute.
Oui, pour le suicide aussi.
Oui, qui est là. Donc, c'est les deux sujets. Pour les pensionnats autochtones, je pense que ça a pris plus de temps avant que ça se fasse en français qu'en anglais. On va le nommer.
Oui.
Mais pour le suicide, c'est peut-être l'exemple par excellence parce que ça, c'est le truc peut-être le plus consensuel
qu'il
y a sur les traumavertissements. Il y a un effet de contagion. Qui peut avoir lieu aussi. Donc, c'est comme traiter ce matériel-là comme du matériel contagieux. Ça, je pense que c'est de l'acquis.
Il y a tellement de choses, en fait, qui vont vraiment toucher les gens puis qui sont abordées avec une espèce de, comment dirais-je, comme un jadedness, tu sais, vraiment dans les médias. J'ai pas le mot en français en ce moment là, qui me vient sur le bout de la langue, mais effectivement, c'est comme s'il y a un détachement complet. Puis un manque de responsabilisation, effectivement. Donc, c'est comme si certains sujets qui sont acceptés par la majorité blanche comme étant assez valides pour recevoir un trauma-avertissement, c'est, comme tu as dit, c'est standard. Mais il y en a d'autres que souvent, des personnes qui sont peut-être à la tête de ces salles de presse-là ne vivent pas, donc ne le conçoivent pas. comme étant assez valide. Alors, d'où l'importance, je pense aussi, d'avoir des personnes comme moi en position de pouvoir dans les médias pour pouvoir justement avoir une sensibilité beaucoup plus grande.
De plus en plus aussi des pratiques, je ne sais pas si c'est des trauma-avertissements, mais du moins, on ajoute de plus en plus en bas d'article, lorsqu'il y a une question, par exemple, de violence sexuelle ou de violence familiale, voici les ressources pour lesquelles vous pouvez aller si vous avez besoin. Donc, c'est moins un trauma-avertissement que de, ben, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, qu'on prend peut-être le temps d'écrire pour briser un tabou. Des fois aussi, c'est pour ça, je pense que l'intention, après, ça peut pas toujours être bien fait, mais je pense que l'intention, des fois, dans le donner des détails qui sont douloureux à lire, à voir, c'est de dire si vous vivez ça, ça existe, vous êtes pas seul. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Puis qu'à la fin, on dit, mais en fait, si, justement, si vous vivez ça, voici les ressources. Mais un point que tu as souligné, que ça, par contre, je trouve que c'est très criant à quel point au Canada, l'homogénéité des salles de nouvelles fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement des réflexes par rapport à ça. C'est la question de la guerre. C'est comme s'il n'y a tellement pas eu de conflits armés en sol canadien que les gens qui ont vécu toute leur vie ici, qui sont l'immense majorité des gens dans les salles de nouvelles, n'ont pas toujours les réflexes de considérer ce que ça peut être de voir certains types d'images pour des gens qui l'ont vécu. Donc ça, là-dessus, je trouve qu'il y a effectivement un écart très important entre les pratiques journalistiques, la manière dont on approche certains conflits, certaines images, puis la déconnexion carrément émotive qu'il peut y avoir entre les gens qui prennent les chefs de pupitre, qui décident de mettre telle ou telle image, puis la réalité des personnes qui ont vécu ces conflits-là, qui sont très, très rarement dans les salles de nouvelles.
Puis j'ajouterais aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la pauvreté extrême aussi.
Ouais.
Tu sais, je pense qu'il n'y a aucune sensibilité sur ces questions. Moi, je sais que dans les communautés roms, il y a beaucoup de journalistes qui adorent débarquer dans les bidonvilles, mais je veux dire, c'est pas sexy, là, vivre dans un bidonville, c'est pas sexy du tout.
Ouais.
Puis ce que je voulais dire aussi dans la couverture, en fait, de cette série qui est sortie dans Le Devoir, moi, j'ai l'impression que j'ai pas entendu les personnes qui vivent les traumas. Donc, on est allé voir les experts, oui, mais j'ai pas du tout entendu la voix. Que pensent les personnes qui vivent ces traumas-là? Est-ce que ça les aide vraiment? Parce que c'est bien de se baser sur une étude, mais c'est bien de savoir qu'est-ce que ça apporte à une personne qui vit un trauma, de voir un trauma-avertissement. Comme il y a certains sujets que, quand je vois, là, qui parlent de la guerre, puis je vois que le journaliste, c'est un journaliste international qui a débarqué en Ukraine parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire de sa vie, je ne vais pas aller le lire, ça ne m'intéresse pas. Je m'excuse, mais je trouve ça vraiment hautain. Et oui, pour moi, c'est, je ne dirais pas que c'est traumatisant, mais c'est un trigger. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous le disent. D'ailleurs, il y a certains sujets que quand ils voient le titre, ils ne vont pas le lire parce que c'est un trigger. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, nous, à La Converse, on travaille beaucoup avec les jeunes. Puis je sais que souvent, quand on traite de violence, par exemple, conjugale, on travaille avec beaucoup, beaucoup de personnes, mais je te dirais qu'on traite de violence conjugale, il y a des femmes qui n'ont pas envie de lire ça.
Mais c'est peut-être une bonne note sur laquelle peut-être terminer cet aspect de la conversation-là. C'est à quel point, des fois, le titre en lui-même est une forme de trauma-avertissement. C'est que t'as pas besoin d'en mettre un parce qu'en fonction du titre, les gens prennent déjà des décisions sur qu'est-ce qu'ils ont envie de lire ou pas. Donc, c'est ça, je pense que la recherche est aussi basée sur est-ce que le fait d'avoir lu un avertissement au début d'un article, si tu continues à lire l'article, est-ce que tu vas te sentir mieux que s'il n'y avait pas eu l'avertissement à la fin? Alors que souvent, ce que les gens font, c'est que soit en fonction de l'avertissement, soit en fonction du titre ou du sujet qu'ils identifient, ils vont décider ce à quoi ils ont envie de s'exposer cette journée-là. Okay. Puis s'ils n'ont pas envie de s'exposer à certains types de sujets ou à certains types de nouvelles, ils vont simplement changer de poste, fermer le journal, etc., etc. Donc, il y a ça aussi qui serait important de souligner si on veut évaluer est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, cette pratique-là. Encore faut-il se demander qu'est-ce qu'on veut dire par fonctionner, si ça fonctionne au sens où ça aide à lire l'article, peut-être pas, mais est-ce que ça fonctionne au sens où est-ce que ça aide les gens à pas lire si ça leur tente pas? Ça, c'est une autre question aussi.
Puis aussi, tu sais, pour terminer, tu me disais, des fois, les gens ils pensent qu'on est trop sensible. Je pense que ça vient, en fait, cette critique du trauma-avertissement vient aussi de la critique de ce qu'on appelle au Québec le wokisme, puis on ne peut plus rien dire. Donc, ça vient à peu près des mêmes personnes, hein, disons-le franchement, parce que je ne pense pas qu'il y a des personnes qui vivent des traumas qui vont te dire « enlève-moi ton trigger warning parce que ça me trigger ». Je ne pense pas. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération.
C'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Léla, d'avoir été là avec nous.
Merci de me recevoir. C'était vraiment un plaisir.
Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Les gens peuvent te trouver où, Léla?
Laconverse.com. Donc, il y aura mon courriel léla@laconverse.com, mais vous pouvez me trouver sur La Converse, là, il y a toutes mes informations et puis voilà.
Génial. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez aussi maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.